Vous écoutez, on lit pour vous.
La lutte des femmes de Tuvalu vers l'égalité. Un texte de Marie-Lise Rousseau paru le 8 mai 2025 dans la Gazette des femmes. Sur le terrain, des militantes se mobilisent. À Tuvalu, petite nation insulaire du Pacifique aux valeurs conservatrices, l'égalité entre les femmes et les hommes est loin d'être acquise. Encouragée par une volonté politique sans précédent, des militantes s'activent sur le terrain pour faire bouger les choses. Filiga Taukiei Nelu est une des rares femmes de ce petit pays de 11 000 habitantes, situé à mi-chemin entre Hawaï et l'Australie, à revendiquer le statut de féministe. « J'ai toujours été radicale pour Tuvalu », dit la directrice de l'organisme Fatulei, dont le nom signifie « les femmes tuvaluanes pour le changement ». Tuvalu est un des pays les plus isolés au monde. Le seul moyen de s'y rendre est par un vol de 2h30 à partir des îles Fidji. Si la population de cette ancienne colonie britannique est reconnue pour son accueil chaleureux et sa tolérance, elle reste très attachée à ses valeurs conservatrices qui cantonnent les genres dans leurs rôles traditionnels respectifs. Là-bas, le mot « féminisme » a encore une connotation négative. Le féminisme ne fait pas partie de la culture à Tuvalu. C'est considéré comme une idée de l'extérieur qui ne correspond pas à leurs valeurs, décrit Brigitte Leduc, une Québécoise établie dans la petite nation insulaire, qui travaille comme conseillère en égalité des sexes et inclusion sociale au sein du gouvernement. Pour interpeller davantage la population sur cet enjeu, l'État a d'ailleurs choisi de donner un nom en Tuvaluan à sa toute première politique nationale sur l'égalité des sexes, lancée en mai 2024, Patagasi, ce qui veut dire « équité ». Violence conjugale omniprésente. Filiga Taukiei Nelu a fondé son association en 2019. Elle travaillait auparavant pour le bureau du procureur général de Tuvalu. Dans le cadre de cet emploi, elle a constaté l'ampleur des inégalités entre les femmes et les hommes dans son pays. Quand elle a dû défendre un homme qui avait battu sa femme à mort dans un contexte de violence conjugale, elle a atteint un point de non-retour. « J'ai vécu un immense conflit moral. Je désapprouvais totalement ses gestes, mais je devais faire mon travail. » Ce cas lui a donné l'élan pour fonder Fatulei. La violence conjugale est un enjeu criant à Tuvalu, tout comme dans les autres nations du Pacifique, où les statistiques en la matière sont parmi les plus élevées au monde. Selon une enquête nationale menée en 2019-2020, 44% des femmes tuvaluanes en ont subi. Les gens de Tuvalu sont en général très affables, mais ça cache une sombre réalité, commente Brigitte Leduc. Dans une si petite communauté où pratiquement tout le monde se connaît, dénoncer un proche vient avec son lot de difficultés. Pour ne pas éveiller de soupçons, les organismes qui offrent des services d'aide, comme Fatulei, le font sous le couvert de programmes de formation. Devant les statistiques accablantes, l'État tuvaluan a mis sur pied une initiative visant à sensibiliser la population à cette réalité. Dans le cadre de cette campagne annuelle baptisée « 16 jours d'activisme », le premier ministre Félicie Théo, en poste depuis le début de 2024, a invité les membres du Parlement à porter un ruban blanc en guise d'engagement contre la violence faite aux femmes. Brigitte Leduc se réjouit de cette prise de conscience politique, un premier pas important. Avant, c'était tabou, on ne parlait même pas de violence conjugale. De plus en plus, les élus et la population soutiennent que ce n'est pas acceptable. Famille et charge mentale. Un de nos défis est de s'assurer que les femmes connaissent leurs droits, mentionne Liliane Falealuga-Tin, directrice générale du Conseil national des femmes de Tuvalu, une organisation à but non lucratif qui soutient les Tuvaluanes depuis plus de 40 ans. Selon elle, la solution pour réduire la violence envers les femmes réside dans une approche intersectionnelle. Il faut d'abord miser sur l'autonomisation économique des femmes, ce qui leur permettra ensuite de développer leur estime de soi et de mieux intervenir dans les cas de violence, avance-t-elle. En développant leur autonomie, elles dépendront moins de leur famille. Il faut savoir que la famille est au cœur de la culture tuvaluane. Sur cet archipel formé de récifs coralliens, la grande majorité de la population vit en famille élargie dans des habitations modestes. L'idée d'une chambre à soi développée par Virginia Woolf n'existe tout simplement pas, car tout le monde partage le même espace commun. Le concept d'intimité est pas mal différent ici, résume Brigitte Leduc. À la maison, les femmes ont par ailleurs la responsabilité de s'occuper des repas, du ménage et des enfants, une charge mentale qui peut être lourde. Les femmes de Tuvalu ne se reposent jamais, affirme sans détour Filiga Taukieinelu. La plupart se réveillent à 4 heures le matin et se couchent vers 23 heures ou minuit. C'est comme ça tous les jours. Les femmes ici ont intériorisé cette routine de travail. Le simple fait de penser à se reposer est presque tabou. C'est pourtant si important pour la santé mentale. Absente de la vie politique. Avec un horaire aussi chargé et des obligations à ce point prenantes, pas étonnant que les femmes brillent par leur absence dans les postes de pouvoir, notamment au sein du gouvernement. Depuis l'élection de 2024, tous les membres du Parlement tuvaluan sont des hommes. Dans le précédent gouvernement, on ne comptait qu'une seule femme parmi les 16 élus. La parité est aussi loin d'être atteinte au sein des gouvernements locaux, où la portion de femmes n'atteint que 17%. Le premier ministre Félicie Théo a publiquement déploré l'absence de femmes dans son gouvernement lors de son adresse à la nation durant la fête nationale du 1er octobre dernier. Plus récemment, dans le cadre d'une discussion portant sur la discrimination envers les femmes, les élus rassemblés ont, de leur propre chef, abordé cet enjeu. La majorité des parlementaires ont convenu qu'il fallait faire en sorte qu'aux prochaines élections, il y ait des femmes au Parlement, rapporte Brigitte Leduc, qui a assisté à cette rencontre. Qui sait, l'une d'elles pourrait être Liliane Falealuga-Tine, du Conseil national des femmes de Tuvalu. Questionnée à ce sujet, la Tuvaluane, qui milite pour les droits des femmes depuis des décennies, admet y réfléchir. « Certaines familles m'ont encouragé à le faire », dit-elle en esquissant un sourire. « Je ne dis pas non, mais peut-être. » C'était « La lutte des femmes de Tuvalu vers l'égalité », un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 8 mai 2025 dans la Gazette des femmes.
Avec l'éolien, Hydro-Québec s'est engagé dans la dénationalisation de sa production d'électricité. Un texte de Jean-Louis Bordeloup paru le 29 avril 2025 dans Le Devoir. L'ajout de mégawatts éoliens au réseau électrique québécois vient largement du secteur privé et coûte des milliards de dollars aux clients d'Hydro-Québec, statue l'Institut de recherche en économie contemporaine, IREC, dans une étude publiée récemment. Dans son bilan résumant les 25 ans de la filière, le chercheur Noël Fagoaga constate que la société d'État est bel et bien engagée dans la dénationalisation de sa production d'électricité. Près de 5% de la production totale d'électricité au Québec dépend aujourd'hui du vent qui souffle dans les pales d'éoliennes. Ce plus récent ajout à la production énergétique québécoise vient en majeure partie au secteur privé, observe l'IREC dans son état des lieux de cette filière. Privilégier l'entreprise privée au détriment de la compétence interne chez Hydro-Québec entraîne un manque à gagner important pour l'État québécois. En 25 ans, les profits pour les investisseurs dans la filière éolienne sont estimés à entre 0,9 et 1,7 milliard de dollars. Les revenus qu'on aurait de ces projets-là, plutôt que ça rentre chez Hydro-Québec, on les privatise. Et là, ce sont les municipalités qui ont commencé à investir dans ces parcs éoliens pour aller chercher des revenus, résume en entrevue M. Fagoaga. Les villes doivent souvent s'endetter pour pouvoir investir. Avec les années, Québec a modifié ses lois pour permettre aux municipalités d'investir elles-mêmes dans les projets sur leur territoire. Actuellement, quelque 10 % du parc d'éoliennes sont détenus par des municipalités. Hydro-Québec a aussi commencé à investir timidement dans quelques projets, de même que des communautés autochtones. N'empêche, le secteur privé détient toujours 72 % de la production énergétique éolienne du Québec. Ces investisseurs privés proviennent d'un peu partout dans le monde, pointe Noël Fagoaga. Il y a des partenaires français, des partenaires espagnols. C'est un très beau produit financier, les éoliennes du Québec. C'est très intéressant d'investir quand on a Hydro-Québec qui s'engage à acheter toute la production sur un horizon de 20 ans. Une privatisation qui coûte cher. Tout au début de la création des parcs éoliens au Québec, on misait surtout sur le développement régional, souligne l'étude. Hydro-Québec nageait alors dans les surplus d'électricité et où l'on tentait plutôt de favoriser l'investissement en région. Cette approche a permis d'attirer dans l'est du Québec des industriels comme Marmen à Matane ou LM Wind Power à Gaspé. Ce modèle s'est finalement avéré coûteux pour la société québécoise puisque cette décision a provoqué des surcoûts pour les consommateurs d'Hydro-Québec. Puisque la société d'État s'est engagée par contrat à acheter toute l'électricité produite par les parcs éoliens privés, ceux-ci tournent à plein régime, même lorsque la demande et le prix est faible. Ils cherchent du rendement, souligne M. Fagoaga. Hydro-Québec achète donc régulièrement et au plein prix une énergie qu'elle facture moins cher aux consommateurs. Résultat, Hydro-Québec doit assumer des pertes totales chiffrées à plusieurs milliards de dollars. L'IREC estime que plus de 7 milliards de dollars de deniers publics ont indirectement subventionné les promoteurs d'éolien. Faute de données à jour, cette facture exclut les montants versés par Hydro-Québec depuis 2021. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas pu calculer, avance le chercheur de l'IREC. Plus les années avancent, plus on sature le réseau et plus ça coûte cher. Depuis quelques années, le modèle québécois de la filière éolienne s'est tourné vers les partenariats publics-privés avec pour objectif la production d'énergie. Les municipalités ont ainsi commencé à engranger quelques bénéfices. C'est sur cette base qu'un premier parc éolien communautaire a vu le jour en Montérégie, le parc éolien Pierre de Sorel. Le nouveau prétexte, c'est la transition énergétique, explique le chercheur. Sauf que dans cette réduction de notre consommation d'hydrocarbures, ce sont les municipalités qui sont au front. Cette dénationalisation de la production énergétique au Québec est un choix politique, commente-t-il enfin. C'était avec l'éolien, Hydro-Québec s'est engagé dans la dénationalisation de sa production d'électricité, un texte de Jean-Louis Bordeloup paru le 29 avril 2025 dans Le Devoir.
Devenir un pro du bac de recyclage, un texte de Chloé Bourquin paru le 23 mai 2025 dans La Presse. Cela peut paraître contre-intuitif, mais tout ce qui est recyclable, ou nous semble l'être, ne va pas nécessairement dans notre bac. Pour mieux comprendre les subtilités de la collecte, nous avons visité le centre de tri de Lachine, qui couvre une bonne partie de l'ouest de l'île. Le balai des camions y est incessant. Chacun arrive, déverse pêle-mêle les matières résiduelles qu'il transporte, puis repart aussitôt. On reçoit environ 80 camions par jour qui transportent 4 ou 5 tonnes de matière chacun, indique Mauro Pecchia, superviseur des opérations de triage chez Société Via. Leur contenu, est ensuite dirigé vers des tapis roulants et soigneusement trié selon la taille, la forme et la matière de chaque détritus. Grâce à différentes techniques, tamis, aimants, trieuses optiques, puis des travailleurs terminent le tout à la main. Une fois trié, les matières de même type sont compactées sous forme de ballots qui seront récupérés par des recycleurs. Mais si des matières nuisibles arrivent au centre de tri, cela peut causer un véritable casse-tête. Plus de 1 million. Nombre de tonnes de contenants, d'emballages ou d'imprimés ayant été directement envoyés à la poubelle plutôt qu'au bac de recyclage en 2021. Source, bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles de Recyc Québec. Une règle et des exceptions. La règle d'or est la suivante. S'il s'agit d'un emballage, d'un contenant ou d'un imprimé, ça va au bac de recyclage. Il existe néanmoins quelques exceptions. Les aérosols, déodorants, peintures, crèmes à raser, contiennent du gaz sous pression. Ils présentent donc un risque d'explosion, même vide. Bien qu'il s'agisse de contenants, il faut les envoyer à l'écocentre ou dans un point de dépôt, plutôt que de les mettre au bac pour la collecte des matières. Le polystyrène, par exemple les barquettes de viande, va bien au recyclage, mais pas le polystyrène expansé servant à protéger les meubles ou les électroménagers qui s'effritent sous forme de petites billes. Dans le doute, il ne faut pas se dire « on met ça au bac ». Il faut vérifier sur l'application « ça va où », rappelle Frédéric Vachon, agent aux communications chez Société Via. Des erreurs fréquentes. Dans le dédale des passerelles du centre de tri qui enjambe des tapis roulants où circulent cartons de lait, canettes de métal et bouteilles de plastique, Moreau Pecchia attrape au vol une pelote de laine entortillée autour d'un cintre et d'un sac de plastique. Plus loin, il désigne tour à tour plusieurs objets qui ont été retirés du circuit. Un tapis d'auto, un luminaire, un ballon de rugby, une voiturette pour enfants. « Ça part toujours d'une bonne intention, dit-il. Les gens se disent « c'est en plastique, alors ça se recycle, donc je vais le mettre au bac. » L'erreur la plus répandue, ce sont les appareils électroniques qui se retrouvent au centre de tri. Ordinateurs hors d'usage, vieux claviers, chargeurs de téléphone cellulaire. Tout ça doit aller à l'écocentre ou dans des points de collecte, précise M. Pecchia. Même chose pour les vêtements et les souliers, qui pourraient sembler recyclables, mais qui ne doivent pas aller au bac. Si c'est encore mettable, il faut les donner, les réutiliser, ou alors on peut en faire des guenilles, sinon c'est poubelle, lance Frédéric Vachon. Des écueils à éviter à tout prix. Certains objets peuvent parfois donner du fil à retordre au centre de tri, voire être dangereux pour les travailleurs. Par exemple, des filets de jardinage peuvent s'emmêler dans les machines et les bloquer pendant plusieurs heures, le temps de démêler le tout. Des bidons d'huile à moteur ou des batteries au lithium peuvent présenter des risques d'incendie, même lorsqu'il s'agit de simples piles. Les pots de peinture ou autres produits corrosifs doivent également aller à l'écocentre ou dans des points de dépôt spécifiques. Et par respect pour les travailleurs qui effectuent le tri à la main, rappelons également que les couches ne vont jamais au bac bleu. « On en voit moins qu'avant, mais on en voit toujours », déplore Frédéric Vachon. 24 % Proportion des matières rejetées, entreposées ou non, recyclées parmi celles qui ont atterri au centre de tri en 2021. Finalement, moins de la moitié des matières recyclables générées ont pu être envoyées à des conditionneurs et des recycleurs pour servir à fabriquer d'autres produits. Source, bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles de Recyc Québec. Quelques gestes pour faciliter le tri. Pour éviter que différentes matières soient mélangées, il faut idéalement les mettre dans le bac séparément. Par exemple, la boîte de biscuits en carton doit être séparée de l'emballage de plastique qu'elle contient. Le bocal de verre ne doit pas rester recouvert de son couvercle de métal. Encore ici, il existe une exception. Le bouchon de plastique doit être laissé sur le carton de lait ou la bouteille de plastique pour s'assurer qu'il soit correctement recyclé. Et pour éviter que les matières se retrouvent souillées par des restes alimentaires, il est conseillé de vider et de rincer légèrement les contenants, comme les cartons de lait ou les boîtes de conserve en métal, puis de les écraser si possible pour éviter que de petits objets ne tombent dedans et soient mal aiguillés. C'était « Devenir un pro du bac de recyclage », un texte de Chloé Bourquin, paru le 23 mai 2025 dans La Presse.
T'es belle pour ton âge. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 25 mai 2025 dans La Presse. Elle est belle pour son âge. Un compliment? Plutôt une maladresse. Pourquoi associer la beauté à l'âge? Pourquoi pas un « elle est belle » point. Selon Karine Gravel, autrice du livre « T'es belle pour ton âge », cette phrase insinue que vieillir constitue quelque chose de négatif et qu'en vieillissant, on devient forcément moins belle. On associe la beauté à la jeunesse et on s'est habitué à entendre ce genre de phrases et ses dérivés « tu vieillis bien »,« tu ne fais pas ton âge »,« tu as oublié de vieillir » ou encore « l'âge n'a pas d'emprise sur toi », énumère la diététiste nutritionniste. On va tous vieillir, femmes et hommes, c'est dans l'ordre des choses. Je vais avoir 50 ans cette année et comme femme, je ressens la pression de devoir toujours être mince et de ne pas vieillir, mais ce n'est pas réaliste. Je prends soin de moi, mais je vais vieillir quand même. Moins notre apparence change avec le temps et plus on est performante sur notre vieillissement, constate-t-elle. Les adjectifs anti-âge et anti-vieillissement de l'industrie cosmétique ajoutent une valeur négative au fait de vieillir, comme s'il fallait toujours lutter contre notre vieillissement et que ça devait être notre première préoccupation. Vincent Gratton témoigne : moi aussi, on me dit : vous êtes beau pour votre âge, ou alors : vous paraissez bien pour votre âge. J'ai 66 ans. Ça me fait rire quand on me dit ça, mais c'est vrai que ce n'est pas très habile, comme si vieillir était synonyme de décrépitude. Vincent Gratton est conscient que pour les questions d'apparence, la société est bien plus sévère envers les femmes qu'envers les hommes. Les marques du visage pour un acteur, ça sera presque un avantage. Les faces maganées des hommes, on dit que c'est magnifique, mais chez les femmes, ça ne passe pas du tout. Il cite la poétesse Joséphine Bacon, qu'il a rencontrée et lui a confié que ses rides, jamais elle ne les effacerait parce qu'elles sont l'histoire de sa vie. Les petites pattes d'oie de ma blonde France Baudouin, ça me fait capoter, je la trouve belle. Et ce ne serait pas ma blonde si elle n'avait pas cette histoire inscrite sur elle. Les critères associés aux standards de beauté sont la minceur, un visage symétrique et la jeunesse, énumère la psychologue Stéphanie Léonard. Elle estime qu'on voit de moins en moins de femmes vieillir à l'écran et que la diversité manque dans les magazines. C'est un conditionnement de toute une société qui nous dit que c'est triste de vieillir, qu'il faut avoir l'air jeune, plus jeune que son âge. Alors on va camoufler nos signes de vieillesse par le maquillage, le botox ou autre. Ce serait bien de voir davantage de femmes plus âgées, en pleine possession de leurs moyens, épanouies dans des rôles principaux à la télévision, au cinéma. Ça fait partie de la solution, pense-t-elle. Le privilège de vieillir. Karine Gravel met en garde contre la pression d'être toujours mince, jeune et belle. Ça crée beaucoup d'insatisfaction et je le vois à travers mon travail de nutritionniste. Des études démontrent que plus de la moitié des adultes au Québec ressentent de l'insatisfaction par rapport à leur corps. C'est presque une idée généralisée de se sentir inadéquate, surtout lorsqu'on vieillit. Il y a souvent des changements corporels, c'est le cours normal de la vie. Il ne devrait pas y avoir de sentiments négatifs. Si j'ai envie, par exemple, de laisser mes cheveux blancs, je vais le faire. On doit remettre en question les normes de beauté qui sont déraisonnables, plutôt que de s'y conformer, car vieillir est un privilège. La marque Estée Lauder a lancé récemment la campagne hashtag à cause de mon âge qui s'adresse aux consommatrices de plus de 45 ans et qui célèbre les réalisations remarquables et l'individualité des femmes qui assument la beauté de vieillir. Des personnalités comme la journaliste Lisa Laflamme et Vania Aguillard, mannequin, journaliste mode et fondatrice de la fondation Les Petits Rois, font partie des ambassadrices de la campagne. La beauté des femmes ne dépend pas de leur âge. Je ne révèle jamais mon âge, car ce n'est pas important pour moi, ni la beauté d'ailleurs. Ce qui compte, ce sont nos réussites, ce que les femmes font, leur parcours de vie. C'est ce qu'il faut mettre en valeur, dit Vania Aguillard. Stéphanie Léonard se souvient de cette époque, pas si lointaine, où nos parents disaient « Elle est bien conservée ». On aime cette idée, dit-elle, qu'une femme, par sa génétique ou ses bonnes habitudes de vie, a déjoué le système et a l'air plus jeune. On est dans le jugement. C'est discriminatoire. Pour les hommes, ce sera la dimension athlétique qui sera davantage jugée. Ce ne sera pas la jeunesse qu'on va admirer, mais le fait qu'il a l'air encore solide, vigoureux avec l'âge. Vincent Gratton se souvient des années où on se retournait sur son passage. « Je suis un ex-beau », s'exclame-t-il. Je sais que j'avais certains attributs physiques. Quand j'entrais dans un bar, les têtes se retournaient. Maintenant, plus du tout. Mais je ne suis pas en deuil de ça. Je suis bien plus intéressant maintenant. Jamais je ne retournerai à mes 35 ans. C'était « T'es belle pour ton âge », un texte d'Olivia Lévy, paru le 25 mai 2025 dans la presse.